Radio. Le commentaire de
Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
Oh, que j'ai hâte de t'entendre, Emmanuel, sur la bourde, la gaffe. Moi, je trouve que c'est une gaffe, toi, je sais pas, mais de Caroline Quash sur l'AstraZeneca. Premièrement, j'aimerais que tu rappelles les faits pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire.
Ben, les faits, c'est que lundi, quand le Comité national d'immunisation a rendu son avis sur Johnson & Johnson, on a mis de l'avant que les vaccins ARN messagers étaient des vaccins préférés. Et par rapport aux autres, donc Johnson & Johnson et AstraZeneca, mais que tout dépendait de l'épidémiologie, des circonstances, etc., ce qui n'était pas nouveau objectivement. Mais ça a été comme le mot préféré, comme sorti du lot d'une manière très différente à la lumière des débats des dernières semaines autour des risques, etc. Et après ça, dans une entrevue avec Evan Solomon à CTV, puis il faut que je dise que Evan Solomon est un des intervieweurs politiques les plus redoutables que je connaisse.
OK.
OK. Derrière son sourire et ses bonnes manières, il est insistant et réussit toujours à faire sortir le chat du sac et donc à triturer Caroline Quash sur préféré. Pourquoi? Mais avant, vous nous disiez que le premier vaccin était le meilleur vaccin, puis là, etc. Elle essayait d'expliquer que tout était relatif. Si tu habites dans le bois puis qu'il n'y a pas de COVID, attends 3 semaines avant d'avoir ton Pfizer. Si tu habites à Toronto, tu es mieux d'avoir l'AstraZeneca. Et elle a dit: ma sœur, qui n'est pas dans un secteur où il y a beaucoup de COVID, si je lui recommandais de prendre l'AstraZeneca et qu'elle en mourait, je ne me le pardonnerais jamais. Et donc là, ça a été...
Et là, elle dit, Emmanuel, elle dit, écoutez, là, j'ai donné 700 entrevues pendant la pandémie, c'était peut-être pas ma meilleure. C'est comme ça que...
Je pense qu'à un moment donné, ça illustre beaucoup de choses, cette controverse-là. De un, je suis entièrement d'accord. Ces gens-là sont pas des communicateurs, c'est pas des politiciens. Je peux remarquer que Caroline Quash fait ça bénévolement, être présidente du comité d'immunisation. Et à un moment donné, la fatigue peut rentrer, puis mal s'exprimer ou mal mettre les choses en perspective, parce que la logique étant que sa sœur étant beaucoup plus jeune qu'elle, elle a pas 55 ans, donc il y a tout un débat autour de ça. Ce que ça illustre aussi par ailleurs, c'est que le Comité national d'immunisation, ce sont des scientifiques qui sont indépendants et qui donnent un avis scientifique basé sur des paramètres et une logique de scientifique. Et là, dans le contexte de la pandémie, on leur demande de nous dire quoi faire. Mais eux, c'est pas ça qu'ils font dans la vie, ces gens-là. Ils prennent des décisions basées sur des... Ils font des recommandations basées sur des barèmes qui sont les leurs. Il y a un moment donné, le problème qu'on a, et ça, c'est pas à Caroline Quash et aux autres membres des comités d'immunisation qu'il faut blâmer, c'est que les gens ne savent plus qui écouter. C'est vrai que le discours du Comité national d'immunisation n'a pas changé depuis le 1er mars. Ils ont toujours dit qu'il y avait moins de risques avec Pfizer, mais que dans les circonstances, avec l'épidémiologie, etc., la troisième vague qui sévissait, ça valait le risque d'AstraZeneca en valait la peine. Cette logique-là n'a pas changé. Mais en même temps, t'as Santé Canada qui approuve les vaccins pour tout le monde, puis t'as François Legault qui dit « Hey, ça ouvre pour les 45 ans, dépêchez-vous! » Alors là, qui t'écoute? Si t'écoutes seulement Caroline Quash, tu te serais pas rué sur l'AstraZeneca. Si t'écoutes François Legault, tu te serais rué sur AstraZeneca. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que là, t'as écouté François Legault, tu t'es rué sur AstraZeneca. Puis là, t'entends parler de l'histoire de Caroline Quash, je dis, mon Dieu, je me suis fait avoir.
Ben oui, puis là, tu te dis, quand je vais avoir ma deuxième dose, là, je ne veux pas avoir une deuxième dose d'AstraZeneca, ça n'a pas de bon sens, ça va être trop faible, je vais avoir une deuxième. Puis là, tu sais, c'est l'incohérence des messages qui est difficile.
Mais c'est parce que on met sur le même niveau 3 perspectives de messages, un qui est purement politique, et le but du gouvernement, c'est de vacciner le plus de monde possible pour s'en sortir le plus vite possible. C'est ça leur objectif. Alors, le message politique, c'est le premier vaccin que vous aurez est le meilleur. Le message scientifique, c'est de dire, c'est pas si clair que ça. Et je pense que cette controverse-là illustre à quel point on ne peut pas avoir des certitudes et comme citoyen, il faut accepter qu'on n'en aura pas et d'assumer de prendre nos décisions. Et donc, soit on décide d'écouter les politiciens, soit on décide d'écouter les scientifiques, mais on ne peut pas écouter les deux en même temps.
OK, mais là, on ne peut pas juger les gens qui décident, à la lumière de ce qui s'est dit, de ne pas vouloir l'AstraZeneca. C'est difficile de les juger. On peut y comprendre.
De toute façon, objectivement, la question ne se pose pas.
Non, je sais bien, il n'y en a presque pas.
Il n'y a pas d'AstraZeneca qui rentre au Québec. Il n'y a que du Pfizer. Alors, l'enjeu, c'est jusqu'où est-ce que les gens se sentent qu'ils ont été floués et qu'ils auraient dû être plus patients. Je veux dire, moi, je pense que le débat était bien entamé sur le risque du AstraZeneca quand les gens ont choisi de le prendre ou de pas. Je suis de ceux-là. Moi, j'ai été très surprise et un peu choquée par l'entrevue de Mme Couache sur le coup quand je l'ai entendue lundi. Mais en y réfléchissant, je suis capable de me dire que c'était pas sa meilleure entrevue. Puis que dans le fond, elle est aussi épuisée que tout le monde et que ça arrive. Et je pense qu'elle a été très habile à clarifier ses propos de manière très, très adéquate dans tous les journaux, par un communiqué, par des entrevues hier. Mais que, oui, on en demande beaucoup à nos scientifiques à qui, eux, analysent cet enjeu-là sous des schèmes qui sont les leurs, d'immunologues, de microbiologistes, etc. Et tout d'un coup, on leur demande de nous donner les certitudes et la simplicité d'un message politique. On ne peut pas faire les deux en même temps. Pas avec la science.
Tout à fait. Écoute, en terminant, je veux absolument te parler du débat qu'il y a dans le journal aujourd'hui sur l'ouverture des restos. Je parlais tantôt à un propriétaire de restaurant, Vianney Godbout, qui disait, écoute, là, je suis pas fou, je sais qu'on peut pas ouvrir aujourd'hui. Ce qu'on aimerait, nous autres, dans le milieu des restaurants, c'est d'avoir un plan, tu sais, un horizon. Là. Quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les terrasses? Quand est-ce, après ça, on va pouvoir ouvrir les restaurants? Parce qu'il faut que moi, j'embauche mes gens pendant ce temps-là. Il me faut un plan.
Et dit,
quoi?
Moi, je pense que le défi, de toute façon, je l'écris noir et blanc, je pense qu'il est beaucoup trop tôt, beaucoup, beaucoup trop tôt pour envisager ouvrir les restaurants. Parce que le risque que posent les restaurants a changé maintenant par rapport à l'an dernier et par rapport à l'automne à cause de la présence des variants. Parce que on a encore un taux de positivité, donc la présence de la COVID dans la communauté est encore plus élevée qu'il ne l'était quand on a ouvert les restaurants l'an dernier. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut, si le gouvernement veut réussir à résister à ces pressions qui viennent de toutes parts, il faut qu'il réussisse cette fois-ci à avoir un plan cohérent.
C'est ça, un plan, mais j'aime beaucoup...
Tel taux de vaccination, on va ouvrir telle industrie.
Je veux revenir à ta chronique, Emmanuel, parce qu'il y a un passage que je trouve particulièrement bon. Quand tu dis « ouvrir les restaurants n'est pas une mesure de déconfinement », c'est le déconfinement. J'aime beaucoup ça.
Oui. Et
effectivement.
Parce que si tu ouvres les restaurants, ça veut dire que tu laisses les gens se voir chez eux, là. Tu peux pas dire « on va ouvrir les restaurants », mais les gens peuvent pas se... socialiser. Alors, on donne la possibilité de socialiser seulement aux monde qui ont de l'argent? C'est très, très, très complexe. Et donc, moi,
Mais t'es d'accord que ça prend un échéancier, là, comme un plan?
Bien, le gouvernement nous dit qu'il travaille là-dessus et je pense que ça aiderait beaucoup à sécuriser la population, les industries et surtout à maintenir le message que si vous voulez que ça marche, il faut que vous alliez vous faire vacciner. Parce que la pire chose qui peut arriver, c'est que le gouvernement déconfine plus rapidement, sans avoir atteint ses objectifs de vaccination, et après ça, les gens n'ont plus d'incitatif à aller se faire vacciner. Parce que l'incitatif à aller se faire vacciner, c'est d'en finir. Si tu n'es pas vacciné, ben, tu n'as pas raison d'aller prendre le risque de te faire vacciner.
Alors, c'est pas évident, et on en a déjà parlé du fameux passeport vaccinal où toi, t'es beaucoup moins chaude à l'idée que moi parce que tu trouves que ça va créer des inégalités. Il y a même, on le voit, l'Association des restaurateurs aussi partage ton point de vue, mais eux autres, ils disent que ça va être trop lourd. Ça va être trop lourd. On n'a pas le temps là, de commencer à savoir si ton passeport vaccinal ou pas.
Non, ben de toute façon, moi, je vois pas la mise en œuvre d'un tel passeport au Canada à cause de la Charte des droits et libertés avant l'automne prochain. Mais le gouvernement doit arriver avec des solutions cohérentes pour gérer l'été. Et c'est sûr que si de toute façon, l'ouverture des restaurants, c'est quelque chose qui va se faire éventuellement, mais d'une manière très graduelle. Et donc, je pense que ça prend des repères pour la population, absolument et essentiellement, parce que il faut encourager les gens à tenir le coup jusqu'au bout. Et ça, ben, ça prend des prix d'étape. sais. Une fois qu'on a franchi tel niveau, on peut faire ceci, tel niveau, on peut faire cela. Puis, la question qui va se poser aujourd'hui, c'est à partir de quand est-ce qu'on vaccine les 16 et 17 ans et les adolescents? Puis ça, la pression va monter très fort. Pourquoi? À cause des camps de vacances cet été.
Oui. Tout à fait. Et en terminant encore, là, il nous reste encore un peu de temps. J'aimerais t'entendre. On sait que François Legault fait une gaffe concernant le prix des logements à Montréal. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh, c'est vraiment sa première gaffe majeure ». Là, il a parlé de l'immigration. Il semblait dire que pour lui, un immigrant pourrait être intéressant et il faut qu'il fasse de l'argent. Des immigrants qui font pas d'argent, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Et là, évidemment, il y a Kim Chiu qui a dit, l'écrivaine qui a dit « Ben moi, je suis arrivé, tu sais, sur un bateau. »
Oui, mais c'est tellement ridicule, ces commentaires-là du premier ministre. De un, là, faire l'adéquation immigrant, puis tout est tout croche dans ce débat-là. Mmh. Premièrement, tu vas me dire une immigrante qui arrive comme enseignante à l'Empire ton problème? Une immigrante qui arrive comme infirmière à l'Empire ton problème? Une immigrante qui arrive comme soudeur à Val-d'Or et Empire ton problème? C'est tous des jobs qui ne sont pas à 56 000 par année, là. C'est tout des secteurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre. En même temps, l'idée que seule l'immigration peut régler la pénurie de main-d'œuvre, c'est un leurre, ça. Il y a 400 000 personnes qui n'ont pas d'emploi en ce moment. Il y a 180 000 emplois qui ne trouvent pas de preneurs. Il faut faire beaucoup mieux pour faire une adéquation entre les gens qui n'ont pas de boulot et les emplois disponibles. Mais l'idée qu'il y a seulement les gens qui travaillent en technologie de l'information qui sont des immigrants qui valent la peine, c'est réducteur.
Ben oui.
Et c'est à courte vue. Et c'est traiter les immigrants comme du cheap labor. Et ça, il s'est carrément mis le pied dans la
tout à fait, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici.
Ça a toujours illustré le manque de profondeur de sa réflexion sur la question de l'immigration, M. Legault.
Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici, il y a des gens qui sont arrivés ici, pas un sou dans les poches, puis qu'ils ont réussi leur vie, puis qui ont été des acteurs importants pour le Québec, voyons.
Et de toute façon, les statistiques rendues publiques par l'Institut de la statistique du Québec démontrent que c'est vrai qu'après 5 ans, un immigrant gagne encore moins qu'un Canadien, qu'un Québécois de souche, mais qu'après 10 ans, il gagne le même salaire. Alors, l'idée que c'est du cheap labor qu'on fait vivre, là, c'est faux.
Mais c'est deux gaffes une après l'autre, hein? Sur le logement et sur l'immigration. La fatigue, hein?
Oui, mais c'est un premier ministre qui est concentré sur une seule chose en ce moment. Et on voit que ça peut, et je le comprends, mais on voit à quel point ça devient périlleux pour lui alors que les débats dans la société commencent à s'élargir, comme sur le logement et comme sur l'immigration. Justement, et on voit à quel point c'est des enjeux auxquels il n'a pas fait attention dernièrement.
Tout à fait. Écoute, j'invite les gens à lire ton texte super intéressant sur l'ouverture des restaurants pour les vaccinés aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci, au revoir.
Salut. Est-ce que Benoît est là? Benoît n'est pas là. C'est qui, Benoît? Coudonc, qu'est-ce qui arrive? Il est 10h30, minute 31 seconde. Bon, ben. Alors, il fait son émission de chez lui. Il n'est pas en présentiel. Donc, ben, je vais, moi, saluer mon équipe et on ira à la pause, mon cher Achille. Est-ce que c'est ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait. Bon, ben, à la recherche, merci beaucoup à Carl Marchand. Merci, Carl, Maude Boutet et à la console, à la réalisation, l'incontournable Achille Moinet. On se reparle demain 8h et on écoute Benoît 6 points à un moment donné. Salut.